RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, c'est l'heure des GG, des grandes gueules, 9h midi, tous les jours en direct avec vous bien sûr. On vous attend au 32-16, vous connaissez la procédure pour intervenir avec les GG. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans
tout
les GG.
Tout est en noir, sauf moi.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Il y a un deuil, c'est quoi?
Nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Enseigne en colère. Bonjour.
Bonjour à vous les garçons, et je tiens à remercier Philippe de la mairie de Paris qui m'a accompagné ce matin parce que tous les chauffeurs Uber m'ont planté. Donc merci Philippe de votre disponibilité et votre gentillesse.
Bah, Kaouter passe deux jours à Paris, c'est l'apocalypse.
si à midi.
Tu vas retrouver Marseille, c'est bon.
Si à midi, Philippe peut traîner par ici pour nous.
Et attends, pardon, c'est un agent de la ville de Paris.
Oui.
T'as fait du stop?
Ben oui.
Ah oui,
j'ai arrêté.
T'as reconnu?
Non, il n'a pas reconnu. J'ai dit, monsieur, tous les trois chauffeurs de Uber m'ont planté. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il me dit, vous allez où? Je suis là. Il m'a dit, allez, venez. Il m'a vu désespéré avec ma valise au milieu de la route, de nulle part.
C'est ça la solidarité entre Parisiens.
Ouais. Non, c'est la solidarité parce que je l'ai demandé de manière bienveillante.
C'est la solidarité pour les Parisiennes.
Mourad Bougela, l'éditeur de bande dessinée, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mourad. Et puis nous sommes avec Thomas Porcher, professeur d'économie. Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que le télétravail, c'est la nouvelle fracture sociale entre la France d'en haut et les travailleurs d'en bas? Au moment où le gouvernement pousse les entreprises justement à faire de plus en plus de télétravail pour éviter qu'on soit trop concentré dans les bureaux, qu'il y ait trop de trajets aller-retour. Donc le télétravail, la France d'en haut face à la France d'en bas, la France des cols blancs face à la France des cols bleus. 10 heures pour en parler avec les GG, avec les grandes. Il paraît que ça crée des tensions maintenant dans certaines entreprises entre ceux qui disent télétravail, ça va, il est cool à la maison, et moi pendant ce temps je marne quoi. Tu vois.
Et d'ailleurs ça peut être expliqué aussi. La démission dans certains secteurs professionnels, il n'y a pas de télétravail, donc je change de métier.
On en parlera avec vous, avec votre expérience, vos témoignages à 10h. Premier sujet de discussion, alors là ça va être clair. Là aussi on a l'impression qu'il y a deux France. Il y a une France qui a du mal à trouver de l'essence, une France où tout se passe bien. Est-ce que vous allez renoncer à prendre votre voiture ce week-end pour éviter de tomber en panne, en rade pour trouver du pétrole? 32-16 pour le dire au GG, pourrons-nous rouler tranquillement et sereinement ce week-end? Écoutez monsieur le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV il y a 20 minutes.
RMC, les grandes gueules.
J'ai une pensée très sincère pour ceux de nos compatriotes qui se voient en panne d'essence ou en grande difficulté pour utiliser leur véhicule. Je reçois des contacts et des messages de gens qui me disent, du coup, j'arrive pas, quelles que soient les raisons, le fait est que j'arrive pas à trouver de l'essence là pour en mettre dans ma voiture pour aller travailler.
Alors,
demain.
Justement.
Et donc, c'est absolument ce que nous voulons éviter. C'est pour ça que mon discours, il est important de l'inscrire dans un contexte. Il est de dire, nous ne sommes pas dans une situation qui devrait générer une pénurie parce que nous avons du carburant. Il y a des difficultés de distribution et donc il y a des difficultés temporaires, réelles, mais temporaires dans certaines stations et on ne doit pas paniquer.
Comment on en sort?
On va trouver une solution.
Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer.
Alors d'après les chiffres donnés par le porte-parole du gouvernement, on a 15% des stations qui connaissent des difficultés sur au moins un type de carburant.
Oui, c'est un chiffre qui ne reflète pas tout à fait la réalité. Par exemple, dans le nord de la France, c'est une station sur trois qui est à sec. Parce que le nord est particulièrement touché. Olivier Véran a dit il faut pas paniquer, mais il n'a pas d'autre solution. C'est quand même un peu compliqué. On a un gouvernement qui nous dit ne paniquez pas, mais qui n'offre aucune solution. En gros, la solution, c'est d'attendre. Et effectivement, les professionnels nous disent qu'il faudra compter environ encore 10 jours avant un retour à la normale. Alors, que se passe-t-il? Il y a deux choses. Il y a tout d'abord la grève des salariés des raffineries, notamment chez Total Energy, qui se prolonge depuis 10 jours. Et donc, plusieurs raffineries sont bloquées. C'est une grève à l'appel de la CGT qui réclame une revalorisation salariale de 10% pour l'année 2022. Donc, forcément, moins de carburant disponible. Et puis, il y a eu aussi l'effet domaine. Et l'effet pervers provoqué par la ristourne sur le carburant, double ristourne si on va chez Total. Et notamment dans le nord de la France. C'est-à-dire que les Belges, les automobilistes belges, depuis plusieurs semaines, vont en France faire le plein. Ce qui fait que ça a vidé les stations-service françaises. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les automobilistes du nord de la France vont en Belgique, où c'est beaucoup plus cher, pour faire le plein.
Exactement.
On est quand même dans un truc complètement ubuesque. Donc, effectivement, ce qui est un peu surprenant, c'est que le gouvernement n'offre aucune solution. Certains disent, par exemple, qu'on pourrait dire aux automobilistes, vous avez le droit de prendre 20 ou 25 euros, c'est tout, pas plus. Enfin, il y aurait peut-être des choses à organiser. Est-ce que ça va être l'angoisse du week-end? Comment pourrons-nous rouler ce week-end?
On a une exception. Varoise. Monsieur Mourad-Boudjelal.
Pourquoi t'as...
Moi, j'invite tout le monde à venir dans le sud. J'ai voulu faire le plein parce que, en ayant écouté BFM, je me suis un peu affolé mercredi. Donc, j'ai voulu faire le plein. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne.
Bah oui.
Donc voilà. Donc si j'avais su, j'aurais pris quelques jerrycans que j'aurais revendus au marché.
Paris, les Hauts-de-France ne sont pas. Paris, les Hauts-de-France ne sont pas la France.
Quoi. Non, mais dans le sud, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument aucun problème.
À Marseille, il y a des problèmes. À Marseille, il y a eu beaucoup de pompes à sec ce week-end. Et là, j'ai reçu un message d'Aline qui m'en a envoyé plusieurs hier, dont un. Elle est infirmière libérale, tu vois, c'est ce que je disais hier. Il y a des professions. Elle n'avait pas de carburant. À 11h31, elle cherchait encore du carburant. Elle commençait à travailler à 14h. Elle a appelé l'ordre des infirmiers qui n'a pris aucune mesure pour ce type de personnes. Elle fait minimum 100 km par jour et elle n'a pas de carburant. Et elle sauve des vies concrètement tous les jours. Donc elle est en zone rurale. Donc sans voiture, elle ne peut pas travailler. Et ni le gouvernement, ni l'ordre qui s'occupe de cette catégorie, donc l'ordre des infirmiers, n'a pris de mesure pour permettre à ces gens d'avoir un minimum de carburant pour aller travailler. Ça c'est grave, tu vois.
Non, mais en fait, le gouvernement ne peut pas tenir une autre position. Parce que s'il dit, bon, il va y avoir des pénuries, etc., tout le monde va sauter dans sa voiture, aller
déjà
faire
un peu le cas.
Il va faire des pleins de précautions. Et donc, en fait, ça va faire une prophétie autoréalisatrice et il va y avoir de la pénurie. Donc, chaque fois qu'il y a les raffineries qui sont en grève, mais je sais pas, c'est pas la première fois,
hein,
les 10 ans que c'est assez constant, chaque fois que c'est le cas, on dit toujours, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de carburant, tout va bien. Alors que dans les faits, il y a des problèmes de carburant parce qu'il ne faut pas inciter les gens à aller faire des pleins de précautions. Mais la réalité des faits, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous avez les raffineries totales, c'est à peu près 50% des raffineries. Hein. Et on a deux fois moins de raffineries qu'il y a 30 ans. Pourquoi on a deux fois moins? Parce que les gens consomment moins d'essence, mais aussi parce que quand les grandes entreprises, c'est pour ça que Total et Exxon, les raffineries d'Exxon font grève, quand on a des grandes entreprises, des grandes majors qui produisent et raffinent et distribuent le pétrole, en fait, les bénéfices qu'elles font sont souvent concentrés en fait sur l'exploration. Et délaissent un petit peu tout ce qui est aspect distribution et raffinage. Donc eux, dans les bénéfices qui ont été faits par les grandes boîtes, ils ont l'impression d'être un peu lésés parce qu'on continue à fermer des raffineries, on dit que ça ne sert plus à rien et on se concentre sur l'exploration-production qui rapporte beaucoup plus d'argent. Et donc ce qu'ils demandent ces salariés, c'est d'avoir une petite part du gras en fait qui est fait en ce moment via ces profits qui sont dus en partie à la guerre, hein, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, parce que la Russie c'est les premiers producteurs de pétrole au monde.
Ouais. Mais concrètement,
il y a un truc, pardon, que je comprends pas, c'est qu'on n'offre pas de solution. On nous dit depuis plusieurs jours, ce week-end, ça va être catastrophique parce qu'on ne réapprovisionne pas les stations le week-end. Bah là, pourquoi pas exceptionnellement, on ne décide pas de réapprovisionner ce week-end. Pourquoi on ne mobilise pas les forces vives de la nation pour qu'il y ait du carburant samedi dimanche et que les gens se retrouvent pas bloqués?
Non, mais moi, je trouve qu'on peut pas,
quand on est
porteur
du gouvernement, on peut pas aller au micro simplement dire, ah ben j'ai des messages, effectivement, c'est compliqué, mais alors ne paniquez pas. Ouais. Voilà, merci, au revoir. Enfin, sincèrement. Une fois de plus, ou alors on dit qu'on ne peut rien faire, mais on a l'impression quand même qu'il y a des solutions.
Bon, normalement, on a 3 mois de stock stratégique.
Bah oui.
Ils sont un peu partout, mais il faut les mobiliser. Voilà. Mais c'est ça, c'est le but d'un gouvernement, c'est d'anticiper, de dire il y a des grèves de pénurie, on commence à mobiliser les stocks stratégiques.
La grève, on sait qu'elle est là depuis 10 jours, donc on peut l'anticiper.
Et là, on sent bien qu'il y a un manque d'anticipation, et donc on appelle au calme. Comme d'habitude, on appelle aux gens de s'adapter.
Adaptez-vous,
on
appelle au calme.
Et en gros, on fait croire que c'est les gens qui sont le problème.
Voilà, c'est ça.
Sauf que il y a quand même, au-delà d'aller promener, il y a des personnes comme pour Aline, tu vois, j'avais fait la liste hier, tu vois, de toutes ces aides-soignantes, ben, les policiers, etc., qui doivent aller travailler, qui doivent avoir accès au carburant. Eux, ils travaillent tous les jours, 7 jours sur 7. Samedi, dimanche compris, des gens ont des soins chez eux. Donc là, il faut trouver des solutions et effectivement venir faire des effets d'annonce, ça suffit.
Ouais. Après, pour reprendre les propos de Thomas sur les revendications salariales de 10%, on peut les entendre par rapport aux profits qui sont faits actuellement par Total. Hein, je veux dire, tous ceux qui ont acheté des actions totales sans rendre compte. Mais ce qu'il faut que les syndicats comprennent, c'est que le marché des hydrocarbures est un marché très fluctuant. Tandis qu'une augmentation est fixée. C'est-à-dire que quand on va augmenter, si on augmente les salariés de 10%, d'abord, ça ne sera pas 10%, ce sera 15%, puisqu'il y a les 5% de charges patronales qu'il faudra payer sur ces 10%, donc ce n'est pas 10, mais 15%. Et ça, ce sera un acquis. Et si ensuite, ce marché qui est si fluctuant, ben, venait à être à la baisse, je veux dire, il y aura quand même le 15% à payer.
Mon cher Mourad,
et donc ce qui peut aussi expliquer qu'on entre dans une négo. Alors après, moi je trouve qu'on est dans un monde.
C'est sur des salaires qui sont souvent assez bas. Hein.
Voilà. Oui, mais ils ont les moyens.
Multitude de salaires bas, ça fait beaucoup. Je veux dire.
Oui, mais multitude de salaires bas, grâce auxquels.
Non, mais c'est grâce auxquels tu fais des super profits. Le problème principal, il est que d'un côté, on a des revendications qui sont fixes, et de l'autre côté, on a un marché fluctuant. Sur un marché fluctuant, on n'a pas d'acquis. Il y a aucun acquis sur ce marché-là aujourd'hui. Mais après, on vit quand même dans un monde formidable. Aujourd'hui, on est en 2022, donc on n'a plus d'essence, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'électricité.
C'est vrai.
On a l'impression de retourner à l'âge de pierre, tout va bien. Quoi.
Oui, mais parce qu'on voit bien qu'on dépend de tout, en fait. Tout est importé. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie qui est vitale pour faire fonctionner notre vie de tous les jours, en fait, alors à part le nucléaire, mais le problème, c'est que le nucléaire, on est moins bon là. Ouais. Bah, on est très dépendant, en fait.
Et on a besoin de 2 millions de barils par jour pour faire fonctionner notre économie. C'est-à-dire l'équivalent de la production. 2 millions, un peu moins de 2 millions par jour, c'est-à-dire la production du Koweït. Tous les jours, on a besoin d'importer ça, on n'en produit pas. Donc via en Afrique, principalement en Afrique,
il y a pas de pétrole en France. Hein, voilà.
Ouais. D'autant que là, en plus, l'OPEP a annoncé qu'ils allaient réduire leur production. Parce qu'ils trouvent qu'en ce moment, ils n'engrangent pas assez d'argent. Voilà. Donc il faut faire remonter un peu les prix. Nous sommes avec Mathieu qui nous appelle du Nord.
C'est l'intérêt des États-Unis de faire remonter les prix.
Bonjour Mathieu.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, alors Mathieu, du côté de Marc-en-Barœul, comment ça se passe alors chez vous?
Eh ben, c'est la catastrophe, pour rien vous cacher. Ça fait 3 jours que on fait toutes les stations essence et elles sont vides.
Est-ce que vous avez absolument besoin là d'avoir de l'essence là?
Bah exactement. Au début, j'ai pris un peu les devants, donc je me suis dit je suis pas encore en réserve, je vais commencer à mettre de l'essence, sauf que impossible, tout est vide. Partout, pénurie d'essence partout dans le nord, à côté de Lille. Mmh. Et là, je suis en réserve et demain, je vais aller au boulot, je vais y aller en vélo.
Et vous êtes obligé d'aller au travail, vous ne pouvez pas travailler de chez vous, notamment Mathieu, dites-moi.
Ah oui, j'ai fait le tour, ça fait 3 jours que je fais le tour. Je me dis, je vais trouver une station essence. Elles sont toutes en pénurie, toutes fermées.
Donc il n'y a pas de solution là.
Ah non, il n'y a aucune solution. Après, si le vélo c'est une solution, c'est la seule. Parce que on ne peut plus rien faire.
Vous avez un vélo et vous avez la possibilité physiquement de faire un vélo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde de fait.
Oui, mais je préférais y aller en voiture. J'ai quand même une dizaine de kilomètres. Je préférais y aller en voiture. Ouais.
Ouais. Mais Mathieu, ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, tant qu'il n'y a pas d'essence, je peux travailler de la maison, je ne bouge pas, dites-moi.
Si c'est 10 jours, c'est bon.
Non, moi, je n'ai pas de télétravail dans mon métier, donc c'est des déplacements. Et aujourd'hui, si j'ai des déplacements à faire, c'est en vélo, j'ai pas le choix.
Et vous vendez quoi? Vous êtes commercial, vous vendez quoi?
Parce que je suis dans un gros groupe hôtelier français.
D'accord. Il y en a qui ont besoin d'avoir des marchandises quand ils sont commerciaux.
Exactement. Donc moi, je peux travailler techniquement dans un bureau, mais on n'a plus d'essence.
Il faut arrêter de contraindre les gens.
Au final, mon métier ne change rien à la discussion. C'est qu'à Lille, et autour de Lille, il n'y a plus d'essence.
D'accord.
Mais même si ce monsieur pouvait faire du télétravail, mon cher Alain, pourquoi le gouvernement ne fait pas son travail? Comme tu l'as dit, c'est d'anticiper les crises, tu vois, de lâcher un peu de ces stocks.
Ils anticipent les crises.
Non, mais il ne faut pas... Tu vois, tout est hyper cher, l'électricité est hyper chère. Pourquoi contraindre les gens à rester chez eux? Parce que j'ai vu 15% de hausse, mais ça ne suffira pas. Tout est hyper cher aujourd'hui, on te contraint chez toi, à rester chez toi, à chauffer, à allumer, à charger ton ordinateur, à travailler de chez toi et donc à consommer un peu plus d'énergie déjà que tu n'arrives pas à payer. Non, que les gens aillent travailler au bureau et que... L'État, les entreprises, enfin, qui peut, débloque la situation pour qu'on puisse vivre normalement. Comme tu l'as rappelé, mon cher Mourad, on est en 2022, on a l'impression d'être en 1022 et pas en 2022. Il faut arrêter de déconner à un moment donné.
Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Bonne journée, Mathieu.
Là, ça fait quand même un tour.
Courage. Tous les jours, merci à vous.
C'est dans le Nord, il y a cette histoire de Belges qui vont faire le plein pour profiter de la ristourne. Ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper. Quand on crée un effet d'aubaine, quand on prend des mesures à l'échelle d'un pays.
Et ça, on la prend pas à l'ENA, quoi.
Il n'y a pas de frontières, forcément. L'autoroubise belge, il se dit, c'est super, je profite on peut aller jusqu'à 50 centimes de moins, quand même.
Oui, mais nous aussi, on profite des frontaliers.
Donc on a nourri l'économie belge, très bien, avec l'argent public.
C'est pas l'essence dont on profite.
Non, mais c'est de l'argent public. D'argent public qui nourrit l'économie belge, bon, pourquoi pas. Et maintenant, il n'y a plus rien dans nos stations. Et donc, il faut aller. Hier, on avait quand même une automobiliste qui nous expliquait qu'elle avait fait 170 bornes pour aller chercher de l'essence en Belgique. Enfin, c'est complètement ubuesque. Et ça, c'est des choses qui peuvent quand même se voir avant que ça arrive et que ça soit une situation impossible.
Alors, on a Mounir qui est chauffeur VTC et qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mounir.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Alors, Mounir, comment ça se passe pour vous?
Moi, c'est hier soir, comme je racontais à vos équipes, j'ai fini ma journée et tout, je suis rentré. Et hier soir, en pyjama, je suis sorti à la pompe, il y avait une pompe pas loin de chez moi, c'est sur la Nationale 104. et il y avait de l'essence, il y avait tout type de carburant. Donc j'ai fait 2h30 de queue pour mettre du gasoil. Et moi, en fait, j'ai un véhicule de type van et je dois mettre le plein tous les 2 jours.
Ah oui.
Parce que je bosse avec, donc pas le choix.
2h30 de queue.
Ouais, 2h30 de queue. Et franchement, il y avait même au moment où je mets du gasoil, le pire, c'est ce qui m'a un peu pris la tête aussi, c'est que à côté de moi, il y avait un gars qui mettait du gasoil. Il a mis que 30 €. Ça se trouve, il avait 3/4 du plein.
Ah oui.
Et ça,
ouais, c'est pour se sécuriser.
Ouais, voilà. Mais ça, c'est ces choses-là. C'est pas possible aussi.
Alors là, Mounir, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait très bien prioriser aussi les professions, alors, ceux qui en ont le plus besoin.
Ça existe dans certaines stations.
Il y a quelques temps, les commerces essentiels.
Mais ça existe. Alors ça existe, pardon, mais il y a certains préfets qui ont effectivement réquisitionné des stations-service pour les professionnels de la route.
Ouais, mais après, bon, ça va un temps. Mais nous, en fait, moi, ce que je veux, c'est que ce conflit se règle. Parce que moi, la faute, je la remets pas que sur les grévistes. Je la mets pour ceux aussi qui dirigent, les patrons de Total, qui devraient aussi penser un peu à nous et faire un effort et trouver une porte de sortie pour que ce problème se règle. Je sais pas combien ce qu'ils demandent ou quoi ou qu'est-ce, mais aussi...
Ils veulent 10% d'augmentation.
Après, c'est le principe de la grève qui est souvent une action punitive pour des gens qui n'ont rien à voir avec les revendications et qui n'ont aucun pouvoir pour les faire avancer.
Mais comme le dit Mounir, c'est pas le problème de la grève.
Aujourd'hui, c'est vous avez fait 2h30 d'attente hier pour faire le plein, vous avez eu la chance de le faire.
Mais
vous pouvez absolument rien faire, vos 2h30 ne peuvent absolument rien faire pour régler les revendications.
Mounir,
Total, il y a peut-être que ce genre de grève, ça date peut-être de l'ancien monde.
Non.
Peut-être revoir le mode de contestation d'aujourd'hui avec peut-être d'autres méthodes.
Mounir soutient les grévistes,
je soutiens pas les revendications. Je dis que ces méthodes sont d'un autre âge.
Oui, mais ça pénalise tout le monde.
Allez-y, Mounir. On parle de télétravail, on pourrait parler de télégrève.
Allez-y, Mounir, pardon.
Ouais, le truc, c'est que. Mais après, Mourad, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment.
Écoute, tu remets le pyjama ce soir et tu vas faire tes 2h30, que je te dis.
J'ai pas le choix, c'est ce que je te dis. Mais malheureusement, en fait, le conflit, il vient d'un côté et de l'autre. C'est qu'ils ne trouvent pas un terrain d'entente. Les deux parties ne trouvent pas un terrain d'entente. Donc les grévistes, ils ont que la grève.
Exactement.
Pour se défendre et pour.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que les salariés de Total en ce moment qui sont dans la merde. Il y a ceux qui ne trouvent pas d'essence et ceux qui ne trouvent pas d'argent pour payer le plein. Vraiment,
mais il faut inventer le contrôleur. Donc bravo, Mounir, pour votre intelligence et votre soutien aux grévistes, malgré que ça a un effet sur votre travail.
Ce que ça nous rappelle, que le raffinage, on nous raconte toujours, ça sert à rien, c'est le vieux monde, on a vraiment fermé la moitié de nos raffineries en 30 ans. Ouais. Et là, on se rend compte que tiens, ça fonctionne plus, il n'y a plus d'essence. Donc ça sert à quelque chose quand même, ça sert à quelque chose, c'est utile. Et puis pendant quand même des années là, tu as sur les bénéfices parfois qui étaient en milliards, c'est pas la première fois que Total fait des milliards.
Oui,
t'avais 80% calé dans l'exploration de pétrole non conventionnel en Guyane, on fait des trous ailleurs, etc. Et pas dans le raffinage. Et en fait, aujourd'hui, notre raffinage, il est même pas adapté à notre production. C'est-à-dire que on importe du diesel, notamment de Russie. Vous voyez, parce qu'on consomme trop de diesel et on exporte de l'essence ailleurs. Donc on n'a même pas un raffinage qui répond à la consommation de carburant en France. Parce qu'en France, 80% de la consommation, c'est du diesel et 20% c'est de l'essence. Et nous, on ne produit pas assez de diesel et on produit trop d'essence.
Mais oui, mais Thomas, je suis d'accord avec toi. Mais juste avant cette grève, on trouvait ce qu'on voulait dans les stations-service.
Oui, tout à fait. Voilà.
Donc le fait générateur, aujourd'hui, c'est la grève.
On va continuer d'en discuter. Aussi, je remercie Mounir d'avoir été avec nous dans un instant. Jean-Claude. Alors Jean-Claude, lui, il est à la cool. Claude, il est à Nantes.
Ouais.
Alors, il pourrait cramer tout son pétrole, toute son essence. Les stations, il y a ce qu'il faut. Jean-Claude, le témoignage dans un instant.
Ça n'a pas duré.
Avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement, sereinement ce week-end? C'est la question que l'on se pose dans les GG, dans les grandes gueules, avec Thomas Porcher, professeur d'économie, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement, sereinement? C'est-à-dire ne pas avoir la crainte de tomber en panne sèche sur la route avec ce qui se passe. Ce que disait Olivier Véran ce matin, le porte-parole du gouvernement, on a 15% des stations qui connaissent des difficultés en ce moment. Sauf si vous êtes du côté de la Loire-Atlantique ou dans le Var avec le camarade Boudjelal, ça peut aller, comme Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Ouais, salut les GG, vous allez bien?
Oui, bah, vous, ça va, ça roule pépouze là en ce moment, ah, Jean-Claude, alors.
Bah, tranquille, je peux même vous en revendre du gasoil si vous voulez.
Ah, c'est pour ça que vous appelez.
Ouais. Pardon?
C'est pour ça que vous appelez, bah, parce que je me demandais, c'est étonnant, Jean-Claude, il nous appelle pour dire qu'il n'y a pas de problème.
Le problème, c'est qu'il faut livrer. Hein.
Non, en fait, c'est parce que vous voulez vous vendre votre carburant.
Allez-y,
ouais,
Jean-Claude.
Ouais, je peux vous rendre 3 euros si vous voulez le litre. Non, mais il faut arrêter de parler, faut arrêter de faire le focus sur le Nord. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai des stations, je suis commercial, de l'essence, j'en trouve facilement. Il n'y a pas de panique à avoir. Enfin, on parle de pénurie, mais il n'y a pas de pénurie. Il faut arrêter que Thomas Porcher et que Kader nous racontent des salades.
On n'arrête pas de lui dire.
Il n'y a pas de pénurie chez nous. Il n'y a pas de pénurie en France. Voilà.
Bah si, dans certaines régions.
Ils ne font pas 2h30 pour plaisir d'attente à une station-service.
Non, mais il faut que Thomas Porcher appelle ses potes de la CGT pour leur dire qu'il débloque. Voilà.
Tout de suite.
Voilà, c'est tout. Ben oui.
Donc là, le VTC là, qui était à Mounir avant nous, là. Donc c'est quoi? C'est un agent secret de la CGT qui a fait 2h30 en pyjama alors qu'il est VTC.
C'est la CGT qui bloque tout quand même, encore une fois. C'est quand même eux. Avant, et Mourad avait raison tout à l'heure, avant que la CGT ne bloque pas les raffineries, tout allait bien. Mais parce que ces gens-là, qui sont nantis, parce que je peux vous dire qu'ils sont pas malheureux, ces gens-là, ceux qui travaillent dans le milieu pétrolier sont loin d'être malheureux.
Dans les raffineries, c'est pas pareil. Allez demander aux salariés de Petroplus s'ils sont heureux, parce que leur raffinerie a fermé. C'est tout un village qui est mort avec Petroplus. Voilà. D'accord. Donc ils étaient pas heureux, ça a fermé.
Il y a
10 raffineries, il y en avait une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 10 raffineries qui ont fermé, les salariés sont passés où? Allez leur dire qu'ils sont heureux
Elles n'ont pas fermé parce qu'elles gagnaient trop d'argent.
Le pays va mal. On sait bien que le pays va mal. Porcher, tout va bien. Tout va mal. Hein, d'accord?
Ça dépend pour qui, monsieur?
Je suis désolé dans mon. Voilà, bah ouais.
50% qui gagnent moins de 1500 euros, je sais pas s'ils vont bien, mais bon, peut-être que pour vous, ça va bien. Bah oui, mais c'est des chiffres, monsieur.
C'est la rengaine des insoumis.
C'est pas la rengaine des insoumis, c'est les chiffres de l'INSEE, monsieur. Non,
monsieur.
Attends, qui est au terme?
C'est la rengaine des insoumis, c'est la rengaine.
Non, c'est pas la rengaine, c'est les chiffres de l'INSEE, monsieur.
Que vous rabâchez à longueur de temps sur les plateaux.
C'est la réalité de millions de Français, monsieur.
Oui. 50% des Français gagnent moins de 1500 euros.
Oui, mais après. Non, je m'appelle pas Kauter, moi j'appelle Kauter.
Il n'y a pas 50% des Français qui gagnent moins de 1500 euros parce qu'il y a 50% qui en gagnent plus.
Bien sûr.
On peut pas opposer les deux comme le fait l'ANUP aujourd'hui.
Ça s'appelle un salaire médian. Ça s'appelle un salaire médian. Mais quand on gagne moins de 1500 euros, je suis désolé, on peut pas dire que la vie est belle en ce moment avec tout qui augmente.
C'est quoi le rapport avec les stations qui sont fermées, Thomas Porcher?
Ben si, demande des revalorisations de salaire.
Je vais vous dire c'est quoi le rapport, monsieur. Je vais vous le dire tout de suite, c'est quoi le rapport, monsieur. C'est que il y a 85% des Français qui vivent en dehors des grandes villes, qui sont dépendants de leur voiture pour aller travailler. Vous avez le prix des carburants qui ont augmenté. Aujourd'hui, il y a des pénuries de carburant. Donc, c'est les gens qui gagnent en dessous de 1500 qui sont directement impactés par la hausse des prix des carburants. Maintenant, sur les raffineries, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des majors qui ont fait des super profits en milliards et qui ont délaissé une partie la distribution. Mais c'est aussi le cas des stations-service, parce que les stations-service ont été divisées par deux aussi en France en 30 ans. Et donc, c'est normal que ces gens demandent des revendications. Et ça permet à des gens peut-être comme vous ou comme d'autres, de se rendre compte en fait que, raffiner du pétrole, c'est-à-dire transformer du pétrole en carburant, c'est quelque chose d'important et qu'il faudrait peut-être pas délaisser cette industrie. À un moment où on a manqué de choses essentielles comme les masques, comme les respirateurs, c'est bien de se rappeler qu'une industrie est essentielle et l'industrie de la raffinerie est essentielle
Jean-Claude.
En France.
Ouais.
La différence entre vous et Thomas, c'est que Thomas donne une dimension très sociétale au travail. Il faudrait juste qu'il comprenne qu'à un moment, ces grands patrons ont aucune notion du sociétal, ils sont là pour faire du profit.
Oui.
Voilà. Et donc c'est le grand débat qu'on peut avoir. Est-ce que le travail doit avoir une dimension
sociétale? Mais ces grands patrons ne peuvent faire du profit.
Voilà.
Toi, tu as ces grands patrons ne peuvent faire du profit.
Tu as aussi la dimension profit que tu peux pas.
Quand il y avait des gens qui perdaient un proche de leur famille, tu avais une dimension sociétale. Tu leur disais tu reviens quand tu veux.
Toujours.
Et quand ils revenaient, ils étaient dans des bonnes conditions pour travailler. Donc tu vois,
j'ai même pu te dire j'ai imposé la semaine de 35 heures bien avant qu'elle soit faite.
Donc tu vois.
Oui, mais aujourd'hui. Alors, je te remercie de me prendre un exemple parce que c'est un très bon exemple. Mais, mais je te dis qu'aujourd'hui, la majorité des patrons ne donne pas une dimension sociétale.
Mais la majorité des patrons,
quand tu dis par exemple, il y a un village qui a fermé, oui, mais c'est pas le rôle d'une entreprise que faire en sorte qu'un village vive aujourd'hui dans le monde économique d'aujourd'hui. C'est pas son rôle. Le rôle d'une entreprise, c'est faire du profit.
La majorité...
Pourquoi c'est faire du profit? Parce qu'aujourd'hui, t'as un taux d'engagement de charges
qu'il faut absolument qu'il faut payer tous les mois et que c'est la priorisation, c'est un train dans lequel tu es engagé et tu peux pas regarder ce qui se passe sur le côté ou le paysage. Tu t'occupes uniquement de faire en sorte que le train tous les mois il arrive en gare.
Sauf que la majorité des patrons doivent comprendre, accepter et rémunérer le fait que s'ils font des profits, des super profits, c'est grâce à la petite main d'œuvre.
D'accord, mais quels font des pertes les salariés remboursent.
Mais quelles pertes?
Les salariés remboursent.
Non, mais moi j'ai rien contre Total parce que c'est une autre entreprise, c'est une entreprise. Alors je préférerais même qu'elle soit publique pour vous dire comme
ah, des... nationalisé
Total. Non mais en fait ce qui est bien en fait Total, il faut jamais oublier, c'est ce qui permet l'acheminement du pétrole, les 2 millions de barils qu'on consomme par jour. Heureusement que Total est là parce que sinon on les aurait pas. Faut pas critiquer. Mais derrière en fait, moi ce que j'aimerais, c'est que Total justement il regarde tout de l'amont à l'aval, donc de la production à la distribution, qui regarde tout l'outil industriel et l'importance qu'il a. Or là en fait les bénéfices, la logique actionnariale, dès que l'investissement va majoritairement à la production plutôt qu'au reste.
Je pense qu'en matière d'économie, il y a des domaines qui sont essentiels, ça existe réellement, je veux dire.
Le raffinage.
Le gaz, l'électricité, sont des domaines essentiels pour la vie. Et peut-être que là-dessus, les profits doivent être minorés. Ou alors, on peut même parler éventuellement de public. Je suis pas totalement contre sur certaines choses essentielles pour la vie. Le grand débat aujourd'hui, par exemple, est-ce normal qu'on ait annulé depuis 1973 la possibilité pour l'État français d'emprunter à zéro? Parce que c'est quand l'État français emprunte, c'est pour des choses essentielles pour le pays, sur lesquelles on est en train de payer des intérêts à des banques américaines.
D'accord,
je pense qu'il y a des domaines essentiels. Il peut y avoir un débat où effectivement.
Oui, mais les domaines essentiels, pourquoi le confier au public? Moi, je voudrais bien si le public nous prouvait qu'il gérait bien. Enfin, excuse-moi, mais EDF, c'est une entreprise publique. Hein, alors, elle va être 100% publique, mais elle est à 80 et quelques publics. Ah bon, 85. EDF, c'est une entreprise bien gérée? L'hôpital, c'est public, c'est bien géré l'hôpital? Ah bon? L'éducation nationale, c'est public, c'est vraiment bien géré.
Il peut y avoir une certaine morale à caper les profits.
C'est l'État qui faisait la démonstration qui gérait bien, d'accord. Sincèrement, je trouve que je préfère que Total reste privé parce que justement, Total démontre en faisant des bénéfices que c'est une entreprise bien gérée. Si il y a une ristourne sur le carburant, c'est parce que Total fait des bénéfices. L'État propose une ristourne sur le carburant en s'endettant, c'est la grande différence.
D'accord, mais alors demain matin, on peut confier à une entreprise privée la responsabilité de l'air qu'on respire et on n'en est pas loin, c'est une métaphore, mais on n'est pas loin.
Dans la logique du privé, tu vas là où ça rapporte le plus. Et si là où ça rapporte le plus, c'est l'exploration production et pas le raffinage, tu délaisses le raffinage pour l'exploration production. Et ça, c'est un vrai problème parce que le raffinage est un problème de souveraineté. La plupart des endroits où il n'y a pas de raffinerie, ils importent totalement leur carburant. Et là, c'est une dépendance. C'est quelque chose de souverain, le raffinage. Le carburant, c'est pas n'importe quoi.
Et pour compléter mon propos, on est quand même sur des marchés qui sont quasiment des marchés de monopole. Ce n'est pas pareil qu'une entreprise qui est sur un marché ouvert. Donc ce n'est pas normal qu'ils aient la même fiscalité. Même chose pour les autoroutes qui sont sur une situation de monopole et qui ont exactement la même fiscalité
sur des
entreprises qui sont liées à la concurrence avec
Là, ce n'est pas normal. On va continuer de se promener dans le pays après Jean-Claude dans du côté de la Loire.
Comment ça, il est à gauche? Moi, ça m'inquiète.
Maxime, bonjour.
Il faut que je me reprenne.
Maxime, chauffeur routier du côté de la Loire. Vous livrez les stations essence, justement, Maxime?
Oui, c'est ça. Bonjour les GG.
Salut. Comment ça se passe alors en ce moment?
En ce moment, moi, je travaille beaucoup sur la région Rhône-Alpes, sur même la région lyonnaise. Et du coup, nous, on charge à Lyon et on vide dans les stations. Mais du coup, il n'y a pas forcément de pénurie du côté de Lyon. Le problème, en fait, je pense que c'est beaucoup les personnes qui vont mettre 5, 10, 15 euros et qui passent tous les jours.
Ah, ouais.
Moi, je vois sur Lyon, sur le périph' de Lyon, il y a des stations essence où il y a la queue, elle fait la queue sur la bande d'arrêt d'urgence du périph'.
Ah ouais.
Parce que les gens, ils vont mettre 20, 30 euros. Si les gens, ils vont faire le plein normalement, on fait un plein normal, il n'y aura pas de pénurie. Mmh. Et les gens n'auront pas d'attente.
D'accord, c'est n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi, mais les gens sont prévoyants. Ils prévoient, et du coup, comme tout, c'est comme quand il y a les pénuries, le papier toilette et tout ça.
Sauf qu'il n'y a jamais eu de pénurie de papier toilette. Sauf qu'il n'y a jamais eu de crainte de manquer de papier toilette.
Et quand on peut se laver, quoi.
C'était moins anxiogène que l'essence, quand même.
Voilà.
L'essence, c'est.
Il y a des gens pour qui c'est. Pour tout,
c'est vital, quoi.
C'est vital pour le travail.
Travailler pour quelle.
C'est pour la mobilité.
Mobilité, parce que Maxime. Ils peuvent être aidants et dans des proches à aller voir.
À côté de Rouen.
D'accord. Et là, en ce moment, vous arrivez à livrer normalement les stations? Oui. Ça se passe comment?
Du coup, on arrive à livrer. On a beaucoup de boulot. On n'a même pas assez de chauffeurs. Du coup, on a du boulot de partout. Tout le monde essaye d'avoir du gasoil, du carburant, même que ce soit fuel ou GNR. Et du coup, c'est compliqué de charger à Lyon. Moi, je suis obligé de descendre dans le sud de la France pour aller charger.
Parce qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement quand vous allez charger, ça va?
Non, mais en fait, c'est des quotas. C'est des quotas pour les repreneurs, les gros repreneurs. D'accord. Et du coup, c'est ça qui devient un peu tendu. Les quotas sont plus serrés, donc du coup, c'est plus compliqué d'avoir du produit.
Merci Maxime et bonne route à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va aller dans le Var, écoutez de la Loire. On va aller dans le Var. Écoutez Mehdi, qui est du côté de la Seine. Bonjour Mehdi.
Seine-sur-Mer.
Allô.
Salut Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les GG. Bonjour. Alors, très content de vous avoir au téléphone.
Il paraît que dans le Var, on trouve de l'essence facilement, alors nous disait Mourad.
Non. Alors ça m'a fait bondir ce que M. Boudjela.
Il est communiste aujourd'hui, de toute façon.
J'ai sauté sur mon téléphone parce que ma femme travaille chez les personnes à domicile. Mm-hmm. Et donc, elle était en réserve, elle m'en parle hier soir, et donc je lui ai dit, écoute, demain matin, je vais me lever 2 heures plus tôt pour aller faire de l'essence. D'accord.
Donc, c'est tous les 11 heures et...
Comment?
Non, c'est une vanne.
Allez-y.
Soyez et pas donc, ce matin, je me suis présenté au Leclerc, mais c'est même pas la peine.
Au Leclerc de la Seine?
Ouais, au Leclerc de la Seine.
Allez, sans faire de publicité, allez au carrefour de Saint-Émus et vous en trouverez.
Ouais, oui, ça fait loin, je suis à la Seine. Et donc, je suis allé à Auchan. Donc, j'ai mis 33 minutes pour faire le plein. 33 minutes parce que j'étais en réserve. Et ce qui est surprenant, c'est que devant moi, il y avait une personne âgée. Je pense qu'elle était à la retraite. Elle a mis 17 euros. C'est pas possible, je lui ai rien dit. Et derrière moi, il y avait un ambulancier et il y avait les personnes de la sécurité, tout ça, machin. Et ils m'ont dit, enfin, l'ambulancier est venu me voir, il me dit, ça vous dérange pas parce que je crois que le stock, il va être épuisé.
Oui.
Ah. Et donc, je l'ai laissé passer. Ouais, et parce que je me suis dit, ça peut être ma mère, mon père, un ami. Donc j'ai laissé passer. Et bien heureusement derrière, après j'ai pu faire le plein. Mais pour dire que
c'est pas si facile.
Mais
que ça,
alors, j'ai l'impression qu'à l'est du département, on trouve plus facilement de l'essence qu'à l'ouest.
Peut-être.
Au-delà de ça, mais vous dites que la personne qui était avant vous, moi, ça fait 2 jours qu'on a un débat ici sur le carburant. D'un côté, on insulte, enfin, ceux qui mettent le plein se font insulter, et ceux qui en mettent pas assez se font insulter aussi. Peut-être que la personne qui avait devant vous n'a mis que 17 euros parce qu'elle n'avait que 17 euros.
Elle gère peut-être un budget quotidien
qui est modeste.
Je pense qu'il avait des moyens, je pense.
Vous savez, les apparences sont souvent très, très, très trompeuses, croyez-moi, premièrement. Deuxièmement, peut-être que même si elle avait les moyens, peut-être qu'elle n'a besoin que de ça et que justement par responsabilité, elle n'a mis que 17 euros parce qu'elle n'avait besoin que de 17 euros et de ne pas faire le plein. Pour faire le plein et mettre.
J'entends, mais dis, c'est qu'elle avait lui manqué 17 euros dans son réservoir.
Non, mais ça, il ne le sait pas, en fait.
Mehdi, c'est avec vous qu'on aura conclu la discussion.
Est-ce que
ça va plus vite de mettre 17 euros que de faire un plein?
Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement ce week-end? C'est la question qu'on a posée, là, juste pour avoir votre impression. C'est quand même un oui très majoritaire, à plus de 68, quasiment 69%. Merci d'avoir donné ce sentiment là à propos du carburant. Dans un instant, on s'en fout pas avec notre coproducteur Louis Gerbier, l'augmentation des indemnités parlementaires, la campagne du gouvernement pour la sobriété, je baisse, j'éteins, je décale, et puis le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon, on s'en fout pas. Alors, on va voir ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, on a un trio composé de Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, et Thomas Porcher, professeur d'économie. Si vous avez raté les grandes gueules là à la fin de la première heure, vous la retrouvez tout de suite en podcast sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. On met quasiment en instantané les discussions des GG. Et puis vous avez aussi les réseaux sociaux et Twitter notamment à votre disposition avec le compte des grandes gueules et toutes les vidéos qui sont mises rapidement en ligne par Alexandra Bischoff, notre community manager.
Tu parles des podcasts, les chiffres du mois de septembre sont tombés, plus 13% en un an, donc vous êtes de plus en plus nombreux à podcaster les grandes gueules. On est aujourd'hui la 11e émission la plus podcastée de France, mais la première dans la catégorie débat d'actualité. Donc merci à tous, d'être aussi fidèles en podcast. J'ai un petit souci. Ouais, mais j'ai un petit souci.
Ouais, Moscato chaud.
Ben voilà.
C'est sur que... devant encore.
Ben non, Vincent. Ouais, mais Moscato, on l'avait doublé en juillet et en août, et là en septembre, ils sont repassés devant.
Mais ouais, parce moi, qu'il a une grande famille.
Tu sais que je vais demander une commission d'enquête parlementaire
sur le.
Je pense que comme certains Moscato achètent show. Leurs followers, tu sais, pour monter dans les réseaux sociaux. Tu sais, c'est des roublards au Moscato Show. Ils achèteraient leur podcast ou ils paieraient des gens pour podcaster, que ça m'étonnerait pas.
Moi non plus.
Je suis à la limite, je suis limite Alain, de l'enquête parlementaire.
Il y a même pas de débat dans le Moscato Show.
Il y a un Marseillais
dans le Moscato Show.
Oui, mais tu as une Marseillaise ici aussi et Thomas nous a rejoint. Donc tu vois, ça fait un
an. Tu viens passer déjà deux jours à Paris, tu es en train de
venir en vacances. J'ai été en vacances à Marseille.
C'est vrai.
Bon, on y va pour le On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre coproducteur Louis Gerbier. Bonjour monsieur Louis.
Bonjour à tous.
Vas-y,
bonjour.
Fonce.
On commence en écoutant le nouveau spot de campagne sur la sobriété énergétique.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
Alors, être traité comme des enfants, on s'en fout, on s'en fout pas.
Kaouter.
Non, on s'en fout pas.
Mourad.
On s'en fout pas.
Thomas.
Je trouve ça ridicule, mais on s'en fout pas.
Voilà. Ok. Et bah, comment ça?
Voilà.
De quoi? Non, mais je trouve j'en ai marre d'être.
Je baisse. Non, mais. J'éteins.
Voilà.
Je décale.
J'en ai marre de ces slogans de pub qui veulent rien dire derrière et qui ciblent personne, et alors qu'il y a déjà des gens qui font ça. Il y a 30% des gens qui sont au maximum, qui peuvent pas faire plus d'efforts sur l'énergie. Donc ça m'énerve un petit peu. Mais on s'en fout pas parce que c'est important. C'est important même pour le climat. Donc on s'en fout pas.
Kaouter.
On s'en fout pas pour les mêmes raisons que Thomas. Et aussi, j'ai l'impression qu'en fait, on est. Que Macron se gauchise, mais j'ai l'impression qu'on est sous un pays communiste en 1940, en fait. Ils nous disent tout ce qu'il faut faire. Non, mais ils nous disent tout ce qu'il faut faire. Il faut dormir à telle heure. Il faut mettre un code roulé. Voilà. Bon élève, voilà, Alain.
Bon élève.
Ceux qui nous regardent
point,
à la télé sur RMC Story.
Toi, t'es en récolté moins de. C'est un peu ça le truc.
Ah, mais voilà, mais moi, je ferai toujours. Moi, je suis comme tout le contraire de ce qu'on me dit. Voilà, c'est un peu le caractère du Sud. Non, mais c'est. À un moment donné, ils se disent libéraux, mais ils sont pires que les communistes après guerre de l'Est, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous dit absolument tout. À quelle heure il faut dormir, à quelle heure il faut se chauffer, à quelle heure, quelle température dans ta chambre. Donc ça suffit. Nous sommes des gens responsables. Et au lieu de perdre du temps et de l'argent, parce que tous ces communiqués, ça coûte du fric monstre public. Faites votre travail et prenez des mesures pour que nous puissions consommer. Et quand on a des voitures, s'en servir. Une voiture, c'est pas un objet de décoration dans la rue, hein, dans une allée. Une voiture, les gens qui s'achètent une voiture, c'est pour s'en servir, même quand c'est pas essentiel pour leur métier. Donc, qu'ils fassent leur travail. Comment ?
Il faut le dire à Anne Hidalgo.
Non, mais on va en parler tout à l'heure d'elle. Mais voilà, qu'ils fassent leur travail au niveau gouvernemental et qu'ils arrêtent de nous materniser.
Mourad. On s'en fout pas parce que d'abord,
je baisse. J'éteins et je décale.
Non,
pas,
d'abord quand tu fasses, quand on vote pour des élus, pour des gens qui, on vote pas pour qu'ils nous expliquent comment nous priver de tout quoi. On vote pour qu'ils améliorent notre vie.
J'adore.
Voilà. Donc et là, apparemment, ils en sont un peu incapables. Et là, j'ai envie de reprendre. On est dans du Coluche, quoi. Il était précurseur quand il disait expliquez-nous ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et on a une classe politique qui, si c'était un chef d'entreprise, si nos hommes politiques étaient des chefs d'entreprise, il fera un tableau Excel. Il dit regardez, le résultat en bas est négatif. Eh ben, c'est pas compliqué. On va baisser toutes les charges. Mais on n'a pas besoin de faire des élections pour baisser toutes les charges. On sait le faire tout seul. Ce qu'on demande à nos hommes politiques, c'est d'augmenter tous les produits. C'est beaucoup plus compliqué que de baisser les charges. Et ça, ils en sont totalement incapables.
Non, les écologistes vont dire que c'est très bien. C'est la sobriété.
On continue.
Oui, en fait, c'est des écologies punitives. Parce que c'est vrai que la planète, c'est la France qui va décider du sort de la planète. On le sait tous. Voilà.
Allez, Louis.
Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier, je vous lis le tweet que vous pouvez voir sur RMC Story, le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire, faites mieux le 16 octobre. Le 16 octobre, c'est la marche pour le pouvoir d'achat que organise LFI. On s'en fout pas.
De ce
Thomas.
Tweet.
De ce tweet, oui.
Moi, je dirais, on s'en fout pas. Enfin, le tweet, on s'en fout pas. Non, non, mais je vous dis pourquoi.
Kaouter.
Moi, j'en ai marre de ce gars, en fait.
T'en fous.
Oh, tu t'en fous.
Non. Bon, en fait,
ah, bah non, c'est on s'en fout, on s'en fout
je
pas.
Je m'en fous pas. J'en ai marre qu'il ouvre.
Je m'en fous pas. Thomas, vas-y, commente.
Pourquoi je m'en fous pas? Parce que c'est toujours un peu ce qui se passe après les élections. Jean-Luc Mélenchon, il est souvent un peu plus rentre-dedans après les élections. Je pense que dans les élections, il est très brillant et les scores l'ont prouvé, mais juste après les élections, les deux ans après, il est souvent un peu.
Il dérape.
Et voilà, un peu rentre dedans. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'à gauche, tout le monde se positionne pour sa succession. Alors, et tout le monde. que ce soit chez les écologistes ou ailleurs. Et donc là, je pense que contredire Mélenchon, alors pas frontalement comme l'a fait Olivier Faure, c'est une façon de dire, bon, j'exige, je suis là.
Mais est-ce que c'est un appel à l'insurrection? C'est ça la question.
C'est un appel à
la violence. Véran disait, c'est même un appel à la violence sociale. En gros, si tu comprends ce tweet, il faut aller chercher Brigitte et Benjamin et leur couper la tête.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, j'en peux plus de ça parce que c'est pas la solution. Si c'était la solution, ça fait longtemps que ça aurait eu lieu. On a vu ce que ça a donné il y a deux siècles et on est pas, il y en a encore dans la merde. C'est mal expression.
Jean-Luc Mélenchon.
Donc moi, j'en ai marre de ce gars qui s'agite, tu vois, qui est dans une société. Il ne manque absolument de rien. C'est un mec qui est hyper privilégié, qui est peut-être plus riche que Mourad, qui est à mes côtés, qui n'est pas dans la merde, et qui est là, toujours.
C'est difficile d'être plus riche.
En France, on est
plus riche que Mourad.
Le milliardaire rouge,
c'est une connerie.
Ils sont passés pour qui, là? Non, mais ça déconne. Ceci étant dit, tu vois, c'est un mec qui est là, qui agite les foules, qui agite les plus précaires, ceux qui n'ont plus rien, qui les manipule, et qui, lui, est dans une tâche dorée.
C'est la société du spectacle aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il
est insupportable, Thomas.
Il sait qu'on va en parler.
C'est insupportable.
C'est la société du spectacle. C'est pareil, Roussel avec son truc, la gauche du travail. C'est-à-dire, et voilà, tous ces gens, ils te font un tweet comme ça avec une position très radicale parce qu'ils savent qu'après, ils occupent l'espace médiatique.
J'ai le droit de dire que c'est insupportable?
Oui, bien sûr.
J'ai le droit de dire qu'on a besoin d'autre chose?
Là, tu as raison.
Voilà.
Moi, d'abord, j'ai deux choses. La première, c'est qu'il faudrait donner un cours de mathématiques à Jean-Luc Mélenchon, savoir que c'est effectivement Macron avec 24, 25, il n'est pas majoritaire, mais juste lui rappeler que 20, c'est moins que 25, qu'il le sache. Donc il est encore moins majoritaire, parce qu'on a l'impression qu'il a l'impression qu'il a gagné. Et je crois que Mélenchon a pris un choc il y a 6 ans, 5 ans, au soir du premier tour, lorsqu'il s'est vu au second tour. Et le temps s'est arrêté à ce moment-là, et il croit que nous sommes toujours dans cette période où il était très très proche du second tour. Le temps s'est arrêté, et il est sans arrêt en train de se battre pour être au second tour. Mais il sera au second tour de plus rien du tout, quoi.
Merci.
On est en train de le perdre, Mélenchon, là. Moi, je suis inquiet, même pour sa santé mentale.
On te retrouve tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il se fout de rien. Donc, ça fait toujours des disputes.
C'est dommage, parce que Anne Hidalgo qui se coupe.
Moi, je voulais qu'on parle de ça. Moi, je voulais qu'on parle de ça.
Allez, merci. Mais ils vont dire, on s'en fout pas, et ça va repartir.
Anne Hidalgo se coupe une mèche de cheveux deux jours après tout le monde. On s'en fout, on s'en fout pas, Thomas.
Bon, allez, on s'en fout. Moi, non, je vais dire, on s'en fout pas.
On s'en fout pas non plus.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Et voilà.
En deux mots.
Bon, vite, comme ça, ils parlent eux aussi. Je trouve insupportable que cette femme ne fasse encore une fois que de la politique spectacle. Quand tu es maire de Paris, tu peux prendre d'autres mesures pour ces femmes qui sont en danger quotidien et faire de la communication pour la communication, pour quelque chose qui est aussi dramatique. Ça me fout les nerfs, ça me met plus que la colère, ça me met la rage en fait contre cette femme qui fait rien d'autre que de la politique spectacle. On n'en peut plus et c'est une honte pour toutes les femmes qui font de la politique et des femmes qui tentent de survivre ici et ailleurs.
Mourad.
Moi je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé de pire aux Iraniennes. Dernière 24 heures. Voilà. Le soutien de Anne Hidalgo. Je veux dire, il leur manquait que ça. On ne leur épargne rien. Voilà. On ne leur épargne rien.
On conclut là-dessus.
Pareil. Allez, dans un instant avec les grandes gueules, télétravail, est-ce que c'est la nouvelle fracture sociale? Vous avez vu que le gouvernement augmente l'indemnité pour les entreprises, pour ceux qui partent en télétravail. Seulement, on est en train de voir deux France aujourd'hui. Celle qui continue à se lever et aller au quotidien au boulot, et puis l'autre qui dit, bon, moi, je peux rester à la maison, je travaille, je gère mon temps. La nouvelle fracture sociale, la France des cols blancs contre la France des cols bleus, à tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.